I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Bienvenue au Jardin de Parole. Une émission de Michel Giroux.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream.
Au Jardin d'Octobre, nous accueillons Christophe Jubien, que les fidèles de Radio Grand Ciel connaissent bien. Ils vont le découvrir autrement. Que nous présentes-tu ?
Eh bien, j'ai choisi les béatitudes.
Les béatitudes,
oui.
De qui ?
De Jésus le Christ.
Oui, mais rapportées par qui ?
Alors rapportées, il fallait choisir entre Matthieu et Luc. Au départ, j'avais pensé à Luc et puis j'ai relu Matthieu et je me suis dit que les deux, ce serait bien de les combiner tous les deux.
Oui. Voilà. Alors on pourrait commencer par Matthieu.
On peut commencer par lire Matthieu.
Oui, d'accord. Et puis à la fin, on entendra Luc.
On entendra Luc. À la vue de ces foules, il gravit la montagne, et quand il se fut assis, ses disciples s'approchèrent. Prenant la parole, il leur donne cet enseignement. Heureux ceux qui sont disponibles, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils posséderont la terre. Heureux les affligés, ils seront consolés. Heureux les affamés et les assoiffés de justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui édifient la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insulte, vous persécute et dit contre vous mensongèrement toutes sortes de mal à cause de moi. Oui, soyez dans la joie, tressaillez d'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Ça c'est Matthieu. Et si on lit Luc, voilà ce qu'on trouve. Levant les yeux sur ses disciples, Jésus leur dit « Heureux vous qui êtes pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim, maintenant vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent, vous frappent d'exclusion, vous insultent et proscrivent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous et tressaillez de joie. » Parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Leurs ancêtres traitaient ainsi les prophètes. Jusque-là, ça ressemble quand même beaucoup à Matthieu. Mais ensuite, Luc ajoute, « Mais malheureux, vous les riches, vous avez votre consolation. Malheureux, vous qui êtes repus maintenant, vous aurez faim. Malheureux, vous qui riez maintenant, vous connaîtrez la tristesse et les larmes. Malheureux, vous dont le monde dira du bien. » Leurs ancêtres traitaient ainsi les faux prophètes. Ça ne veut pas dire que, enfin, mon sens, que Luc est un sadique et qu'il pointe du doigt les défauts des autres, mais tout simplement parce qu'il montre les conséquences de nos actes. Ce n'est pas une punition divine qui attend les riches, qui attend ceux qui sont repus, c'est tout simplement la conséquence de leurs actes, leur égoïsme, de tout ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait. Le partage et...
C'est une manière aussi de consoler les pauvres.
Peut-être aussi. Peut-être aussi, mais aussi de... Finalement, c'est un avertissement.
D'accord.
Sans frais.
Alors, pourquoi as-tu choisi ces deux discours ?
Parce que, tout simplement, les béatitudes, c'est à la fois un discours et un anti-discours. C'est-à-dire que, bon, généralement, un discours se donne l'objectif de convaincre des auditeurs que celui qui est en train de faire le discours détient la solution à leurs problèmes. J'en veux pour preuve le fameux « moi, président de la République ».« Moi, président de la République, je ferai ceci. Moi, président, je ferai cela. » Et donc, forcément, le monde ira mieux. Votre sort s'en trouvera grandement amélioré. Or, les béatitudes sont un discours au sens... où Jésus va grimper sur une éminence pour s'adresser à une foule qui s'est déplacée pour l'entendre, tout spécialement, mais à aucun moment, il n'est question de lui-même dans ce qui va suivre. Il n'y a pas de promesse électorale, Il n'y a pas de programme révolutionnaire, il n'y a pas de projet de société non plus, si on va par là. Et pourtant, eh ben, il est toujours question du bonheur de l'homme et de son avenir. C'est-à-dire, heureux, vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés.
Oui.
Hein, on en appelle toujours au futur, ceux qui pleurent riront, etc. etc. Alors, comment cela est-il possible? On peut se poser la question. Et la réponse de Jésus, elle est vraiment subversive. C'est-à-dire qu'en étant doux, en étant miséricordieux, en étant pauvre d'esprit, c'est tout ce que nous dit Matthieu, en étant humble, en ne répondant pas à la violence par la violence, etc. etc. Et finalement, en fait, Jésus renvoie chacun à lui-même et avec du travail à faire à la maison. Parce qu'on devient, on devient pas doux et miséricordieux comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts. Il faut travailler pour ça. C'est-à-dire qu'il faut lutter contre les passions. Et c'est ces passions dont on voit les fruits aujourd'hui comme hier dans le monde. La violence, l'injustice, la misère. Et là, je repensais en lisant les Béatitudes à un petit passage d'une chanson d'Yves Simon qui dit « Regarde dans ta tête et dans les journaux, toute la folie du monde est dans ton cerveau. Regarde dans ta tête et dans les journaux toute la folie du monde. » C'est-à-dire que ce qui fait que le monde est mauvais, finalement, c'est que l'homme lui-même est mauvais. Alors, si on est chrétien, on conçoit qu'il n'est pas mauvais de nature, puisqu'il a été créé à l'image de Dieu, mais il l'est devenu à travers le péché originel. Et c'est pourquoi son travail, c'est de réintégrer sa nature originelle. C'est ce qu'on appelle, si je me permets, puisque je suis de confession orthodoxe, ce qu'on appelle la déification en orthodoxie.
D'accord.
Donc, comment se déifier?
Tu peux préciser la déification.
Alors, déification, c'est comment se déifier? Tout simplement, si j'ose dire, par l'opération du Saint-Esprit. Alors, il nous est tous arrivé de dire à nos enfants, si tu veux réussir, tu as intérêt à bouger un peu les fesses, ça ne va pas arriver par l'opération du Saint-Esprit. On dit toujours ça, évidemment, mais ça n'a pas arrivé par l'opération du Saint-Esprit. Quand on dit ça, on n'est plus un chrétien. Parce que c'est justement le Saint-Esprit qui nous permet d'accéder à la divinité. Et à nous, en fait, le cœur de notre travail, c'est de nous rendre disponibles à Dieu.
D'accord. Donc, il est question d'image dans ce que tu viens de dire. Dans les deux discours de Saint-Luc et Saint-Matthieu, est-ce qu'il n'y a pas un portrait qui se dégage, finalement?
On peut dire que c'est le portrait du Christ. Et puisque le Christ nous a dit, à un moment, d'ailleurs, dans un autre passage de l'Évangile, il est dit, je ne sais plus dans quel Évangile, « Je suis doux et humble de cœur. » Et Jésus dit aussi, « Celui qui veut voir le Père n'a qu'à me regarder. » Je suis à l'image du Père, en fait. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Eh bien, c'est ce que nous propose Dieu par participation. Il nous fait le cadeau, finalement, de sa ressemblance. Mais il faut la chercher tout au fond de nous. Elle est enfouie sous, justement, ce qu'on peut appeler le péché originel dans le christianisme. Et on peut dire, parce que le vrai djihad, je vais employer le mot djihad, mais à dessein.
C'est un peu surprenant.
Oui, mais il est là, quoi, le vrai combat, finalement.
Tu peux expliquer exactement ce qu'on entend par djihad?
Alors, bon, je m'en tiens simplement, par exemple, à l'islam, il y a ce qu'on appelle le petit djihad et le grand djihad. Alors, le petit djihad, dans l'islam, c'est la guerre contre les infidèles, c'est ce qu'on voit, les djihadistes. Et puis, il y a le grand djihad, c'est la guerre contre les passions. C'est-à-dire le combat intérieur, en fait. Dans le christianisme...
Ça appartient à quelle branche du...
Alors ça, c'est plus... Le grand djihad, il est souvent fait référence dans le soufisme. Mais c'est un hadith du prophète, c'est-à-dire une parole rapportée du prophète, du prophète Mohamed. Mais pour nous en tenir au christianisme, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que le combat contre les passions pour l'avènement d'un homme meilleur et par voie de conséquence, d'un monde meilleur. Mais ce qui nous est proposé, et c'est là où c'est un antidiscours, c'est que les béatitudes sont un antidiscours, c'est que tout ce que le monde contemporain déteste, c'est la douceur, l'humilité. L'humilité, surtout aujourd'hui, on doit avoir droit à son quart d'heure de célébrité. Le moi, je fais ceci, moi, je fais cela, c'est mon choix. Il y a toutes sortes d'expressions.
On en souffre actuellement.
On en souffre. Et tout ce que le monde contemporain déteste, la douceur, l'humilité, même le pardon... C'est cela que Jésus nous propose dans ses béatitudes. C'est la grande subversion des évangiles et elle est toujours, finalement, elle est toujours d'actualité, quoi.
Pour toi, Concrètement, qu'est-ce que cet anti-discours apporte à l'homme d'aujourd'hui ?
Ben c'est une promesse, hein, finalement. Dieu nous fait une promesse. Mais il faut faire un bond dans l'inconnu, c'est-à-dire faire acte de foi. Mm-hmm. Parce que rien dans le monde nous montre que si on est doux, ça va aller mieux pour nous. C'est le contraire.
Oui, oui.
Celui qui est doux, dans la cour de récréation, il va se faire harceler. Mm-hmm. Celui qui est humble, on va se foutre de lui, quoi. Il va être le dernier des derniers. Il sera le dernier servi. Mais il sera le dernier servi dans le monde. Il sera le premier servi dans l'autre monde.
D'accord.
Et c'est aussi, je pense, que le futur qui nous est proposé, c'est aussi quand même le futur d'une société meilleure. C'est-à-dire que si chacun applique à lui-même ce programme, évidemment que le monde va s'améliorer, quoi. Mm-hmm. Qu'il y aura moins d'injustice, qu'il y aura moins de...
Il y aura moins ce que tu décrivais dans les contre-créations, etc.
Alors quand même, je voudrais ajouter un petit truc parce que... J'écoutais le générique, qui est superbe, le générique de cette émission.
C'est ce qui est d'ailleurs de Anke Elfrich, pianiste de jazz allemande.
Pianiste de jazz allemande. Et en arrière-fond, ce qu'on entend, c'est le fameux discours de Martin Luther King.
Voilà.
Je ne peux pas dire que les béatitudes nous empêchent de faire un travail, de légiférer par exemple, ou de faire un travail comme l'a fait Martin Luther King et ses amis autour des droits civiques. Pas du tout, on doit aussi quand même, ça ne nous empêche pas de travailler dans un parti politique ou dans le milieu syndical, ce n'est pas la question. Mais si on ne fait pas ce travail intérieur sur nous-mêmes en complément, et peut-être d'abord ce travail, je crains que dans 1, 2, 3, 4 siècles, on en soit encore malheureusement à légiférer et peut-être en pure perte, ou en tout cas... Voilà.
Très bien, merci. Nous voilà à la fin de notre émission. Merci à tous, à Christophe, à Simon. Merci à vous, auditeurs. Et puis, à la prochaine émission du Jardin de Parole, au mois de novembre.
Tu as peur des gens qui passent dans ta vie ou sur le trottoir d'en face. Tu as besoin qu'ils te regardent, et pourtant tu restes là sur tes gardes. Raconte-toi. Raconte-toi. Tu écris au visage que tu as vu, quadrichromie à la une des revues. Tu leur dis, je te regarde, est-ce que tu me vois dans le brouillard de ma ville où j'ai si froid. Raconte-toi. Raconte-toi. Toutes sortes de messages aux inconnus et lucioles de passage. Prends le parti du risque et des erreurs. Le silence est toujours complice ou trompeur. Raconte-toi. La folie du monde est dans ton cerveau.